Le voici, cet astéroïde 500 mètres de diamètre. La sonde américaine Osiris-Rex devrait atteindre Bennu, avec pour objectif prélever au moins 60 grammes de matériaux riches en carbone à la surface de cet énorme caillou.
La sonde Hayabusa 2 est entrée en contact quelques secondes avec la surface de l'astéroïde Ryugu.
Aujourd'hui, la main de l'humanité a atteint un nouvel astéroïde.
Et c'est même carrément la course aux astéroïdes en ce moment, car ce n'est pas une ni deux, mais 10 publications, vous le disiez tout à l'heure Axel, qui sont à la une de la science aujourd'hui.
Et oui Mathieu, la situation est assez rare. Les deux grandes revues, Science et Nature, publiaient mardi dernier une rafale d'études au sujet des deux astéroïdes, Ryugu et Bennu, observés de près respectivement par des missions japonaises et américaines. Alors ces deux petits astéroïdes ont à peu près la même forme, des sphères avec un bourrelet à l'équateur, font moins d'un kilomètre de diamètre et sont composés d'un agrégat de rochers plus ou moins gros. Et pour faire le tour des résultats, nous sommes au téléphone avec Patrick Michel du CNRS. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous avez de la chance puisque vous faites partie des deux missions actuellement en cours en tant que conseiller scientifique pour la NASA et pour la JAXA. Et vous êtes astrophysicien à l'Observatoire de Côte d'Azur. Alors est-ce que c'est vraiment une course à la découverte qui se joue entre les Américains et les Japonais autour de ces astéroïdes? Pourquoi toutes ces publications en même temps?
Alors c'est une course, mais une course comme deux tennismans qui se combattent sur un terrain de tennis. C'est d'ailleurs une course qui est faite avec une très très bonne entente, hein, évidemment. Les deux missions se communiquent l'une avec l'autre. Moi-même, je fais partie des deux missions, donc on voit bien qu'il n'y a pas de frontière entre les deux. Simplement, effectivement, il y a eu une sorte de petite course pour s'assurer que les premiers résultats, qui sont en fait les premiers résultats, les premières données que nous avons sur ce type d'astéroïde, arrivaient en même temps de part et d'autre, des deux côtés du monde.
Alors, quelles ont été les plus grandes surprises au fur et à mesure que les deux sondes approchaient précisément de Ryugu et de Bennu?
Alors en fait, donc c'est Hayabusa 2 qui est arrivée la première, le 27 juin dernier en 2018, sur cet astéroïde Ryugu qui fait à peu près 900 mètres de diamètre. Nous n'avions jamais vu avant d'image détaillée d'un astéroïde potentiellement riche en matière organique et en carbone, qui est ce que l'on pense être ce genre d'astéroïde. Donc ce sont vraiment les premières images que nous avons obtenues. Et on a été extrêmement surpris par le fait que sa surface est faite de rochers, de gros rochers, distribués de manière complètement homogène. C'est-à-dire qu'il y en a de partout. Ce qui pose évidemment un problème puisqu'on veut se poser pour récolter un échantillon. Oui. Donc ça, ça a été la première surprise qu'on a eue du côté de Ryugu, qui a été confirmée aussi du côté de Bennu, la cible d'Osiris-Rex, qui elle fait 400 mètres de diamètre, donc à peu près deux fois plus petit, et qui est aussi couvert de rochers, alors qu'il y a très peu de gravité. Donc vous allez parler plus tard de cosmologie, on parle plutôt là d'extrême gravité. Là on est à l'inverse, on a très peu de gravité, donc on se pose toujours la question, comment est-ce qu'on peut avoir autant de matière, autant de rochers qui restent à la surface, en dépit du fait que l'attraction est extrêmement faible. Donc ça a été les deux premières surprises qu'on a eues.
Patrick Michel, ils sont à quelle distance l'un de l'autre d'ailleurs ces deux astéroïdes?
Alors ils sont à grande distance l'un de l'autre, hein. Ils tournent autour du Soleil mais ils passent de temps en temps près de la Terre. Hayabusa 2 est à peu près à 340 millions de kilomètres de la Terre, donc un peu plus de 1000 fois la distance Terre-Lune. C'est quand même énorme, et Osiris-Rex à 120 millions de kilomètres, ce qui est vraiment fascinant parce qu'on s'imagine là qu'on a deux petites sondes faites par l'humain qui sont en train d'explorer de nouveaux mondes, hein. On est un peu comme des Christophe Colomb qui découvrent de nouveaux territoires, des territoires qu'on n'a pas du tout sur Terre parce que les conditions sont très différentes, et tout ça à des centaines de millions de kilomètres de nous.
Alors Patrick Michel, il y a aussi la couleur qui les caractérise tous les deux. Vous dites ils sont si noirs que rien sur Terre n'est aussi noir que ces deux objets. Il faut les imaginer comment? Alors de quoi est-ce qu'ils sont faits?
Ah ben là, il faut les imaginer très 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 noirs.
On peut pas.
Effectivement. D'ailleurs, sur les images, les même publics, hein, les roches les plus brillantes que vous voyez sont aussi noires que le charbon. Donc ça, je vous laisse dire ce qui est plus noir. Donc on pense que c'est essentiellement du carbone. On n'a malheureusement pour l'instant pas une grande connaissance de la composition parce que il faudra attendre les échantillons. Mais on sait par contre qu'ils ont des minéraux hydratés, c'est-à-dire qu'ils ont vu l'eau. Mmh. Et en l'occurrence, Bennu encore plus que Ryugu. Et d'ailleurs, Bennu, et ça c'est aussi une grande nouveauté, est ce qu'on appelle actif, c'est-à-dire que des particules s'échappent de temps en temps de sa surface. On a découvert ça au mois de janvier, on demandait ce que c'était, puis on s'est aperçu que c'était récurrent. Et donc, c'est un objet qui, un petit peu comme une comète, en fait, laisse échapper des particules. Et une idée que nous avions, qu'il y a une sorte de continuum entre les deux populations, comètes et astéroïdes, sur la base des propriétés physiques, eh bien, est confirmée. On pensait avant que les comètes étaient ces objets qui dégazent et laissent échapper de la poussière et font sublimer la glace en vapeur. Et que les astéroïdes étaient des petits cailloux complètement passifs. Et là, on s'aperçoit que c'est pas le cas. Et ça a été une très, très grande surprise qu'on essaie maintenant de comprendre.
Alors, à terme, les objectifs de ces deux missions, c'est bien sûr de ramener un petit peu de ces astéroïdes sur la Terre. Quand est-ce qu'auront lieu les deux collectes? Elles sont décalées dans le temps, hein?
Alors, Hayabusa 2 a fait sa première collecte, ce qui est une première dans l'histoire du spatial. On a réussi, avec le mécanisme prévu, un petit projectile de 5 grammes qui a tapé à 300 mètres par seconde sur la surface, on a réussi à se poser où on le voulait, sur une petite distance de 6 mètres. La zone était simplement de 6 mètres de large, parce que sinon il y a trop de rochers. Donc les Japonais ont fait un travail extraordinaire pour revoir leur stratégie d'atterrissage, qui avait une précision de 100 mètres, ils l'ont réduit à 6 mètres. On a réussi ça le 22 février. Il va y avoir une deuxième expérience assez risqué le 5 avril, je retourne au Japon pour ça d'ailleurs, on va faire une expérience d'impact à grande vitesse. Cette fois-ci, on va lancer un gros projectile de 2 kg à 7200 km/h pour faire un cratère et possiblement se poser dessus en fin mai, début juin, pour récolter un échantillon, cette fois-ci de sous-surface, pour comparer avec l'échantillon de surface qui a été pris le 22 février et voir l'effet de l'exposition à l'espace de ce genre de surface. Côté Osiris Rex, la récolte aura lieu en juillet 2020, et là, on est en train justement de caractériser complètement l'objet pour choisir le meilleur site pour récolter, sachant que la technique sur Osiris Rex est un petit peu plus sophistiquée. Sur Hayabusa 2, on espère récolter une centaine de milligrammes. Sur Osiris Rex, on espère récolter au minimum 60 grammes, voire jusqu'à 2 kilos, selon l'état de surface. Et c'est vraiment avec ces échantillons qu'on va pouvoir analyser avec une grande précision la composition de ces objets, comprendre quels ont été les ingrédients initiaux qui ont permis de former les planètes, parce que ces objets sont les restes des briques qui ont formé les planètes, qui, contrairement aux planètes qui ont grossi et donc ont chauffé leur matériau, s'est transformé chimiquement, les astéroïdes, eux, ont conservé les propriétés chimiques initiales du système solaire. Ouais. Et puis aussi vérifier le rôle qu'ils ont pu avoir sur l'émergence de la vie sur Terre, parce qu'on pense qu'à la fin de la formation de la Terre, il y a eu beaucoup d'impacts qui ont pu apporter les matériaux qu'il fallait.
Alors, une dernière question, puisque c'est l'actualité et c'est le mois d'avril, vous l'avez dit. Pourquoi est-ce que les Japonais veulent percuter l'astéroïde? Quel est le but à essayer de faire un cratère dessus?
Alors, le but, il y a deux buts. En fait, le premier, c'est de comprendre cette physique de la cratérisation lorsqu'on est dans des régimes très différents de ceux de la Terre, parce qu'en fait, les tailles des cratères sur les astéroïdes et sur les surfaces en général nous donnent une estimation de l'âge de l'objet. En gros, plus vous avez gros cratères, normalement, plus l'objet est vieux, parce que un gros cratère signifie un gros projectile, et dans le système solaire, il y a moins de gros projectiles que de petits. Mais simplement, la relation taille du projectile, taille du cratère est mal connue. Peut-être qu'on va découvrir que même avec un petit projectile, on fait un très gros cratère, auquel cas l'âge de la surface est plus jeune. Donc ça, c'est le premier objectif, oui. De comprendre ça. Et le deuxième, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, de ramener un échantillon de sous-surface.
Oui, donc d'aller à l'intérieur de l'astéroïde.
Voilà.
Merci beaucoup, Patrick. Michel, vous étiez en direct avec nous pour nous parler donc des aventures autour de ces deux astéroïdes. Merci beaucoup, Axel. À demain.
Merci, à demain.
Allez, en bref, dans l'actualité des sciences, les dangers du chlordécone confirmés à nouveau. Ce pesticide utilisé massivement entre 1973 et 1993 pour la culture de la banane aux Antilles fait l'objet de nombreuses polémiques depuis son interdiction. Un travail de deux chercheurs français publié la semaine dernière confirme son fort potentiel cancérogène et démontre qu'une exposition répétée au produit multiplie par 3 le risque de récidive des cancers de la prostate. La Martinique détient aujourd'hui le triste record du monde du nombre de cancers de la prostate par habitant, avec 230 nouveaux cas par an sur 100 000 hommes. Un oiseau fossilisé avec un œuf dans le corps, eh bien c'est une première. Découvert en Chine, vieux de 110 millions d'années, cet oiseau de la taille d'un passereau renferme un œuf parfaitement formé. Et c'est une chance, car chez les oiseaux actuels, l'œuf terminé ne passe pas plus de 24 heures dans le corps de la femelle. Mais en observant la coquille de près, les scientifiques ont remarqué des structures étranges qui laissent penser que l'œuf était peut-être mal formé, coincé dans le corps de l'oiseau. C'est peut-être l'œuf justement qui est à l'origine de la mort de l'animal. Et puis pour terminer, né un travail astrolabe découvert sur les côtes du Sultanat d'Oman. Ce disque de métal gravé porte l'emblème du Portugal, la sphère armillaire toujours présente sur le drapeau du pays. Une étude réalisée en imagerie laser révèle une graduation fine et continue sur le pourtour de l'objet. Aujourd'hui invisible à l'œil nu, elle confirme que cet objet, justement daté du XVIe siècle, servait d'aide à la navigation.